Le dernier qui s'appelle Clair de Lune. La Kabylie était en feu et l'insurrection s'étendait jusqu'à Batna, Sétif et Omal, le fort national, Délis, Tizi Ouzou, Dra El Mizan, Bouji, Borj Bouharji, Milal étaient assiégés. Toutes les fermes et les habitations isolées flambaient, abandonnées par les colons trop heureux de sauver leur tête. C'est sur ces entrefaites que le colonel L, commandant le cercle de Bou Saada, officier énergique, partit un peu imprudemment avec une minuscule colonne de tirailleurs algériens et de spahis pour percevoir les impôts dans les tribus du bled El Djerid. Le premier caïd auquel il s'adressa refusa de rien payer. On dut faire des arrestations. Et le lendemain, 2 ou 3 000 Arabes, la plupart du cercle de Bou Saada, vinrent attaquer notre camp. On les mit en pleine déroute. Et tandis qu'un escadron de spahis sabrait les fuyards, le colonel fit sonner le ralliement des tirailleurs, et les braves turcos poudreux, sanglants, déchirés, hideux mais épiques, vinrent reprendre leur rang sur le front de bandière. Les sergents-majors firent l'appel. Une trentaine d'hommes et 2 officiers manquaient dans le bataillon. « Mes enfants, dit le colonel, je suis content de vous. Mais il faut nous hâter pour de finir cette besogne, car si nous ne la finissons pas aujourd'hui, ce sera à recommencer demain. Et demain, ils seront 10 000. » Les turcos, sombres et immobiles, écoutaient. Le colonel continua. « Pendant que la cavalerie charge cette canaille, vous allez m'apporter les têtes des tués. Allons, enfants !» 100 sous par tête de bédouin, 1 douro, rompez les rangs et pas de gymnastique. » Et se tournant vers les officiers étonnés de cet ordre, « Le bureau arabe m'a fait prévenir que beaucoup de gens de Bou Saada sont mêlés aux insurgés. Il faut frapper un grand coup, sans quoi il nous faudra rentrer dans la ville par la brèche avec sur nos talons tous les ksours du Mokran. » Cependant, les turcos, poussant de grands cris, se répandaient en courant sur le champ de bataille. Les chassepots avaient fait merveille, semant la plaine de corps bronzés. Alors on vit des groupes sinistres, les soldats indigènes penchés, un genou en terre, décoiffés d'un coup de main la tête du cadavre, quand y adhérait encore le chéchia ou le haïk, puis, en poignant la touffe de cheveux que tout musulman porte à l'occiput, ils agitaient furieusement, avec un mouvement de bras qui scie et des miaulements de chacal, le terrible sabre baïonnette. Une boule sanglante pendaient tout à coup à leur poing gauche. Puis ils venaient présenter triomphalement l'épave humaine qu'ils jetaient sur un tas grossissant devant la tente du kébir en échange du douro remis par le sergent-major, et sans reprendre haleine, ils recouraient à la besogne. C'était l'argent de l'achour que le caïd des Chabka avait insolemment refusé de payer aux cavaliers du colonel et dont on s'était emparé la veille à coups de fusil. Les têtes, au nombre de 300 environ, remplirent un fourgon du train d'artillerie qui fut aussitôt dirigé au grand trot sur la ville. On ne s'encombra ce jour-là ni de prisonniers ni de blessés, car s'il y eut de ces derniers, ils furent retrouvés sans tête, corvée de moins pour l'aide-major, les hommes de garde et les ambulanciers. Escorté d'un peloton de spahis, le fourgon entra vers minuit à Bou Saada par la porte du sud, et le chargement funèbre s'arrêta sur la grande place. La ville reposait sous la garde d'une section de turcos qu'on réveilla prestement et sans bruit pour qu'ils se tinssent prêts, fusils chargés et sacs au dos. Des hommes de corvée épointèrent rapidement le manche de longs piquets de tente qu'ils enfoncèrent en un triple cercle autour de la fontaine, et sur ces piquets on planta les têtes. Le fourgon les versait au fur et à mesure, en petits tas d'horribles boules gluantes informes couvertes de caillots et de plaques de boue. Dans la précipitation et l'âpre désir du gain, les coups avaient été maladroitement tranchés. Des inhabiles avaient tailladé pour chercher la jointure des vertèbres cervicales. D'autres, ne la trouvant pas, avaient haché l'os à grands efforts. Des nuques horriblement déchiquetées témoignaient des affreuses luttes des blessés. Leurs exécuteurs, irrités de cette résistance qui augmentait leur besogne en y mettant des obstacles non prévus, avaient frappé, dans leur rage hâtive, 10 mauvais coups pour un bon. Et les chairs pendaient avec les fragments du crâne et les tendons, comme de petits bouts de loques ou des sétons englués de matière. La lune, cachée jusqu'ici derrière les hauts palmiers de l'oasis, se montra tout à coup, éclairant le hideux spectacle. Faces livides éblouies, bouches ouvertes encore dans la rage d'une dernière morsure, nez écrasés dans les heurtements et les chaos d'une route de 15 lieues. Ici, un œil sorti de l'orbite pendait jusqu'aux lèvres comme une agate salie, tandis que l'autre, grand ouvert, semblait regarder avec étonnement le vide. Là, une tête enfoncée trop brutalement était percée de part en part. Un éclat de bois sortait du crâne, au-dessus des sourcils formant une corne sanglante. Une autre, fendue par un coup de crosse, laissait couler la cervelle comme la moelle qui s'échappe d'un os. Des ruisselets dégouttaient lentement, serpentant le long des piquets où ils se collaient comme des filets de glu. Des chiens blancs, à longs poils, maigres et trapus, et de grands lévriers fauves rôdaient autour du charnier, essayant de lécher les cailloux de sang, tandis que d'autres, un peu à l'écart, hurlaient à la mort. L'aube bientôt éclaira ses épouvantes, et le soleil levant vit surgir les désespoirs. Ce furent les femmes d'abord, qui, levées les premières pour puiser l'eau à la fontaine, assistèrent au spectacle. Pétrifiées d'abord et muettes d'horreur, elles parurent ne pas comprendre ou se crurent le jouet d'un cauchemar. Mais s'étant approchées, elles poussèrent soudain de grands cris. La ville entière s'éveilla et en même temps le clairon des Turcos, debout sur la place, sonna la diane. La joyeuse fanfare retentit avec ses airs de fête au milieu de cette désolation, tandis que les femmes, avec des hurlements de louves affolées, tournaient autour du triple rond macabre. L'une reconnaissait la tête de son frère, celle-ci de son époux, cette autre de son père ou de son fils. Quelques-unes, ne pouvant distinguer les traits, les essuyaient du bas de leur robe ou grattaient de leurs ongles les coagulations de boue et de sang. Les hommes arrivèrent à leur tour, silencieux et farouches. Beaucoup levèrent les bras menaçant du poing l'invisible ennemi. Ils poussèrent tous à la fois de grandes clameurs, puis ils se turent. La section des Turcos, immobile et sombre sous ses gais habits bleus de ciel, attendait, l'arme au bras, sur la place, et les spahis rangés en bataille avaient le sabre au clair. Puis au loin, on entendait s'approcher les éclats sonores des clairons sonnant la marche. Alors, le vieux caïd de Boussaada monta sur son cheval de guerre, et il suivit de ses chèques revêtus du burnou écarlate, sortit de la ville à la rencontre de la colonne. Et lorsqu'il fut à 10 pas du colonel, qui, le poing sur la hanche, chevauchait audacieusement en tête de sa petite troupe, au milieu de ce pays soulevé, il mit pied à terre, et se prosternant, il appuya sur l'étrier du français sa longue barbe blanche. « Tu es le plus fort, » dit-il simplement. C'était écrit. Et c'est ainsi que fin janvier, quand tout le nord de l'Afrique était en feu, fut étouffée en sa racine la sédition de Boussaada et la révolte des Ksour du Mokrane. La pratique des hommes de guerre n'est pas la pratique des avocats. Aux sages, salut !